Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous ici cet après-midi. Et donc je remercie les organisateurs de m'avoir conviée parmi vous donc à cette journée Vivant Denon. Et donc je suis particulièrement honorée, très touchée, et j'ai le trac, pour tout vous avouer. Et cependant, j'ai l'habitude de faire des conférences. Mais là, voilà, c'est un public d'amateurs et de connaisseurs. Donc voilà, le but de cette conférence, c'est de vous apporter du contexte pour que vous puissiez comprendre comment Vivant Denon va orchestrer l'histoire métallique de l'empereur Napoléon Ier. Mais pour pouvoir comprendre la manière dont il va orchestrer cela, il faut quand même que je puisse vous donner quelques éléments de contexte pour que vous puissiez ainsi avoir, je dirais, le début de l'histoire, en quelque sorte. Et donc, pour commencer cette conférence, je vous présente ici un tableau que nous exposons au sein du Musée de la Monnaie de Paris et qui illustre, eh bien, comme vous pouvez le lire, donc le Louvre et la Monnaie de Paris, donc le Louvre qui se déploie hein, sur le quai de Seine. Et évidemment, en face, vous avez la Monnaie de Paris. Cet atelier monétaire a été construit par un grand architecte qui s'appelle Jacques-Denis Antoine. Et on va poser la pierre de fondation en 1770. Et dès le mois de décembre 1775, donc 5 ans plus tard, on va pouvoir commencer à battre monnaie, donc à frapper la monnaie. Et c'est une commande, ce bâtiment, une commande royale du roi Louis XV. Et donc, battre de la monnaie, c'est extrêmement important, puisque ça permet voilà, de faire des échanges. Et sur la monnaie, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a sur la face l'effigie du souverain et au revers différents éléments qui permettent d'avoir la valeur de la pièce, le millésime, etc. Et donc cet atelier de fabrication va jouer un rôle extrêmement important. Mais disons que dans l'immédiat, c'est surtout au Louvre que tout va se passer. Alors ici, je vous présente quelques vues pour que vous puissiez avoir quelques éléments, je dirais, historiques. La monnaie des médailles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'atelier qui va prévaloir pendant voilà, des siècles. Et en fait, son installation, on va organiser un atelier de fabrication pour la médaille dès 1609, au moment de la construction du Pont Neuf. Il y avait un atelier de fabrication qu'on appelait la monnaie du moulin. Dans cet atelier, il y avait des machines qui permettaient donc de fabriquer de la monnaie, et au moment où on va construire le Pont Neuf, il va falloir déménager en fait, et on va se dire mais c'est, bah, il faut trouver un espace, un endroit, et donc on va implanter cet atelier qui va prendre le nom donc de Monnaie des Médailles, et on va l'implanter, alors que je vous montre, voyez, lorsque vous regardez le Louvre aujourd'hui, vous avez les guichets. À l'époque, donc au début du règne de Louis XIII, eh bien, il n'y a pas ces guichets. Il faut considérer en fait que c'est plein, hein, voilà, la construction. Et donc, l'atelier de la monnaie des médailles va être installé dans cette zone qui est balisée en jaune ici, que vous retrouvez ici. Et donc, juste à côté, vous avez l'imprimerie royale. Et donc, la monnaie des médailles qui a pour vocation de frapper de la médaille, eh bien, va se trouver juste à poser à côté de l'imprimerie royale. Et dans ce Louvre absolument incroyable, eh bien, vous allez avoir des ateliers d'artistes et vous allez avoir de fait une communauté comme ça d'artistes qui va, je dirais, voilà, jouer ensemble, et vous allez avoir une porosité entre les différents ateliers et les artistes vont pouvoir, je dirais, se fréquenter. Et ça, c'est très important. Il y a vraiment, je dirais, une grande collaboration entre les différentes techniques, et ça, c'est tout à fait essentiel. Et donc cet atelier des médailles va avoir une vie très 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 longue, et j'y reviendrai après, puisque au bout d'un moment il va falloir déménager, et je vous dirai pourquoi. Donc toute la partie fabrication, vous voyez, ça va se passer dans cette zone-là, que l'on retrouve un peu donc ici, voilà, c'est par ici. Et là, donc, on va déployer ici donc des machines particulières pour fabriquer ces médailles. Et ces médailles, à l'époque, eh bien, elles font partie, elles aussi, d'une histoire métallique qui va être celle, notamment, donc à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, voilà, pour raconter l'histoire donc de Louis XIV en médailles. Et ça, ce sera un élément aussi important pour le déploiement et la création de l'histoire métallique de Napoléon Ier. Il y a une survivance avec donc, des éléments comparatifs, et ça, Denon va avoir un rôle essentiel aussi par rapport à ça. Donc, en tous les cas, vous voyez qu'il y a ici, donc, sur la scène, beaucoup d'activités, et cet atelier de fabrication médaillistique va rencontrer, à la fin du XVIIe siècle, je dirais, une popularité absolument considérable. Il ne faut pas oublier que l'art de la médaille, c'est un art, donc, je dirais, qui est très connu, très apprécié, très valorisé par le pouvoir. Et qu'est-ce que vous avez donc sur ça, sur la médaille ? C'est un objet biface, de petite taille. C'est un objet qui est, je dirais, préhensible. C'est vraiment un objet que l'on peut embarquer avec soi, que l'on peut avoir dans la poche. Mais l'intérêt, c'est que vous avez sur la face, et de façon systématique et, je dirais, intemporelle, toujours l'effigie du souverain. Et au revers, vous allez avoir des images qui mettent en avant, je dirais, sa politique, et qui va le glorifier. Donc ça, c'est très important. Et à l'époque, déjà, eh bien, c'est extrêmement, je dirais, connu, réputé, et l'art de la médaille, si c'est un art désuet un peu aujourd'hui, à l'époque, c'est absolument essentiel. C'est un vecteur de communication très, très, très important. Et ça, Denon le sait, et il va en jouer, et Napoléon aussi. Et je vais vous raconter la suite de l'histoire. Alors, comment ça se passe ? Un peu plus tard, à la période de la Révolution, il va y avoir, je dirais, un petit moment voilà, de repli de l'atelier. On continue à fabriquer de la médaille donc sous le règne de Louis XV, de Louis XVI, mais un petit peu moins quand même que sous Louis XIV. Et donc, de fait, avec la Révolution française, eh bien, l'atelier va tomber en sommeil. Vous avez ici à gauche une reproduction, donc un dessin qui illustre donc le directeur de la monnaie des médailles à l'époque, de 1767 à 1803, donc ce dernier, Jules-François de Cotte, c'est donc l'administrateur, c'est un contrôleur des finances, ce n'est pas un orfèvre comme pouvait l'être notamment Nicolas Delaunay sous Louis XIV, c'est un administrateur, c'est un fonctionnaire, si vous voulez, simplement. Et son rôle, eh bien, c'est de faire passer des commandes et les faire frapper, les commandes de médailles. Et donc, à l'époque, vous allez avoir donc, un artiste très important qui est le graveur général. Le graveur général, donc, c'est à la fois la personne qui grave les outillages monétaires qui permettent la frappe des monnaies, et c'est en même temps un personnage qui va avoir un rôle artistique essentiel. Et à la Révolution française, ce personnage qui a ce poste absolument extraordinaire, eh bien, c'est Benjamin Duvivier. Et Benjamin Duvivier, je souhaitais vous montrer cette représentation parce que vous le voyez, dans sa fonction, dans son métier de graveur, il tient une médaille, il tient dans la main une échoppe et vous avez, alors attendez que j'utilise le pointeur, vous avez ici donc une matrice qu'il est en train de graver, ces différentes échoppes qui sont ici, ces burins, etc., quelques exemples de médailles. Donc là, il est vraiment dans l'exercice, si vous voulez, de son métier de graveur. Alors qu'est-ce qui se passe à la Révolution ? Eh bien, évidemment, les codes vont changer. On va décider de mettre à la retraite Monsieur de Cotte. Oh, pardon. On va mettre à la retraite Benjamin Duvivier. Et les hommes de la Révolution française vont dire, bon ben voilà, maintenant, il y a certaines fonctions, il faut faire passer un concours. Et donc, c'est sur concours que l'on va ainsi recruter le prochain graveur général, qui va s'appeler Augustin Dupré, et ce personnage va avoir énormément de problèmes, notamment avec Bonaparte. Les deux personnages ne vont pas du tout s'apprécier, et ça va être extrêmement compliqué. Néanmoins, l'intérêt, si vous voulez, de mettre en sommeil l'atelier de la monnaie des médailles, va faire que, eh bien, finalement, les outillages de frappe vont rester préservés. Et ça, ça va être absolument déterminant pour toute la suite de l'histoire métallique. Ça veut dire qu'en fait, la codification, tous les symboles royaux, cette collection d'outillages extraordinaires va rester dans son jus et ne sera pas détruite. Parce qu'il y avait toujours un risque avec les hommes de la Révolution de voir effectivement ces derniers, comment dirais-je, saccager les symboles de la monarchie. Or là, l'atelier étant en repli, ça ne va pas se produire. Et ça va être très important. « Avant que Denon donc prenne ses fonctions, parce que ce dernier, donc certes, je dirais, est protégé par le grand peintre David, donc Denon, effectivement, c'est un personnage, je dirais, qui a la personnalité que vous connaissez, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais qu'est-ce qui se passe juste avant qu'il ne prenne ses fonctions? Eh bien, il ne faut pas oublier quand même que Bonaparte, qui, dès le siège de Toulon, commence déjà à utiliser la médaille, parce que c'est un art qu'il apprécie beaucoup, il sait très bien que c'est un vecteur de communication qui permet de glorifier ses actes militaires et de se mettre en avant. Donc très très tôt, Bonaparte, le général, va utiliser l'art de la médaille. Et donc ça va être vraiment un art constant qu'il va utiliser tout au long de son règne et qu'il va développer. Mais donc c'est déjà quelque chose qui est, je dirais, très ancré dans sa pratique. Et donc il faut considérer que ce n'est pas Dominique Vivant Denon qui va lui donner le goût de la médaille, pas du tout. Bonaparte a déjà cet intérêt pour cet art, donc bien avant. Ça, c'est vraiment essentiel. Et alors donc ici, l'atelier de la monnaie des médailles est un atelier qui est certes, si vous voulez, sous l'autorité, on va dire, de la Convention, mais c'est un endroit où les personnes privées ont la possibilité de faire frapper des médailles pour leur compte. Et ensuite de les diffuser. Ce n'est pas du tout un atelier qui est réservé uniquement pour le pouvoir. Pas du tout. Et c'est ça, je dirais, que l'on connaît un petit peu moins. Donc ici, je vous ai mis quelques matrices et quelques poinçons de médailles, et je reviendrai sur la question donc de la technique tout à l'heure, pour illustrer le fait que, à partir donc du consulat, l'atelier de la monnaie des médailles va reprendre un petit peu ses activités, sortir du sommeil, et nous allons commencer à voir donc des médailles en relation, je dirais, avec le renouveau à la fois artistique, la volonté de relancer l'économie, l'industrie, et tous ces sujets vont passer par l'art de la médaille, et notamment donc le premier consul le sait très bien. Et donc de fait, vous allez avoir déjà certains sujets extrêmement intéressant, et notamment ici la médaille de droite qui s'inspire du fameux tableau de David, donc le passage du Mont Saint-Bernard. On est ici en 1801, et là on voit que cet objet qui n'a pas du tout été commandé par le premier consul est néanmoins un objet donc qui est diffusé donc par un canal qui est là privé. Donc la médaille, elle a un côté, si vous voulez, je dirais, politique, de pouvoir, avec un canal bien précis qui va partir de la volonté, donc à la fois de Denon, du premier consul et puis de l'empereur. Mais à côté de cela, et c'est cette chose un petit peu inédite peut-être que vous découvrez, vous avez un canal beaucoup plus privé. Mais ces deux aspects se nourrissent, et c'est ce qui fait la richesse de l'atelier de fabrication et de l'atelier de la monnaie des médailles en quelque sorte aussi. Alors, comme je vous le disais à l'instant, il existe des documents d'archives qui permettent de retracer donc et de voir un petit peu quels sont les sujets qui ont été frappés avant que Denon ne prenne ses fonctions. Car donc la médaille, que ce soit donc au moment où Bonaparte fait ses campagnes d'Italie, donc 1796-1797, première campagne, puis seconde campagne, 1797-1798, il faut savoir que quand il est en Italie, évidemment, il va utiliser donc ce médium qui est l'art de la médaille, et il va, à l'époque, là-bas, à Milan notamment, qui est l'atelier, un grand atelier de fabrication à la fois monétaire et médaillistique, il va utiliser les talents donc des graveurs qui sont sur place. Et à l'époque, donc ces graveurs s'inspirent de travaux qui sont réalisés, dessinés, donc en amont, par de grands artistes. Et notamment, vous avez un artiste italien qui s'appelle Andrea Appiani, qui va fournir des modèles qui vont permettre la réalisation de ces médailles que vous avez ici. et qui représente donc déjà des grandes batailles donc, de Bonaparte en Italie, donc bataille de Milesino, on est en 1796, et ensuite un autre exemple, passage du Tagliamento, on est en, là en 1797, et ça ce sont des médailles qui ont été réalisées donc, du temps de la présence donc, du général Bonaparte en Italie. Et donc il s'en sert déjà comme moyen de propagande. À l'époque, on est d'accord, et je ne vais pas cesser de le répéter, Denon n'est pas, je dirais, concerné encore par cet aspect-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, Denon, certes, il va orchestrer l'histoire métallique de Napoléon Ier, mais il faut donc savoir qu'il s'est passé bien d'autres choses et que l'art de la médaille était donc un art déjà très présent dans la vie du premier consul. Et il ne va donc pas cesser d'utiliser ce vecteur de communication pour mettre en avant sa, je dirais, sa propagande, mettre en avant ses victoires, ses batailles et toute sa politique. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel parce que c'est un aspect, en général, que l'on ne présente pas comme ça. Mais en fait, vous voyez, il y a des fondements en fait, qui sont très importants au départ. Alors, ce que je vous montre... Oh, pardon, excusez-moi. Ce que je vous montre ici, c'est ce que nous appelons des poinçons. Pour fabriquer une médaille, on va avoir besoin de matrices, et de deux matrices notamment. On frappe toujours la médaille à froid sur une rondelle de métal qui est lisse au départ et qui s'appelle un flanc. Et donc, la matrice, c'est quelque chose qui est très difficile à graver, et je vais vous en montrer tout à l'heure encore d'autres. Et donc, dans certains cas, on préfère toujours graver en relief, et ce poinçon, on va l'enfoncer à la surface d'un bloc d'acier doux, qui va permettre de faire un enfonçage en négatif. Et c'est avec cette matrice qui est en négatif, on en a besoin de deux, que l'on va pouvoir ensuite obtenir, forcément, après la frappe, un positif. Donc ça, la partie technique, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais c'est déjà pour vous familiariser un petit peu. Lorsque Bonaparte demande donc à Vivant Denon de prendre ses fonctions, donc évidemment, je ne reviens pas sur la conférence de ce matin. Vivant Denon donc est en Égypte. Ce qu'apprécie beaucoup Bonaparte, c'est sa vivacité d'esprit, sa capacité donc à dessiner, à faire comme... C'est une sorte de reporter de guerre, si on veut aller par là, Denon, en quelque sorte. Et donc, du coup, cette capacité à croquer sur le vif, rapidement, à voir qu'en fait, finalement, cet homme de 50 ans qui est solide, est un homme de terrain, qui va partout, qui est curieux, eh bien, ça plaît énormément, donc, à Bonaparte. Et effectivement, quand il lui confie, en fait, la direction du musée central des arts, le muséum qui deviendra en 1804, donc le musée du Louvre, et lorsqu'il lui confie aussi la direction de toutes les manufactures, et notamment la manufacture de Sèvres, hein, qui est une des plus connues, eh bien il va lui confier, donc de fait, le 23 septembre 1803, donc la direction de la monnaie des médailles. Et ça, donc, voilà, Denon va arriver dans cette institution, et donc à l'époque... Et je, alors là, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Je remercie beaucoup Madame Maurice Chabard pour le prêt de ce joli tableau de Denon que nous avons ici pour un an au Musée de la Monnaie qui le représente. Voilà, avec cet œil absolument pétillant, plein de curiosité. Et donc, ce tableau accompagne donc voilà un autre chef-d'œuvre de notre musée que je vous présenterai tout à l'heure. Mais donc, on retrouve voilà ce personnage absolument incroyable qui va... Donc, d'une main de fer, diriger un atelier de fabrication hors du commun. Et donc, en fait, il va y avoir un moment absolument déterminant. Il faut savoir que c'est donc Bonaparte, général, Bonaparte, premier consul puis empereur, qui va décider donc de doter la monnaie des médailles, je dirais, d'une force incroyable, c'est-à-dire qu'il va rétablir le droit de monopole, c'est-à-dire que cet atelier de fabrication sera le seul sur l'ensemble du territoire à avoir le droit de frapper de la médaille et du jeton. Et donc il n'y aura aucun autre atelier de fabrication qui sera en charge de la fabrication des médailles. Et qu'il s'agisse de commandes privées, ou de commandes émanant directement de l'empereur, ce n'est qu'un seul endroit, et c'est le directeur, donc Denon, qui a pour mission donc de faire frapper tout cela, toutes les médailles qui viennent en commande. Mais surtout, ce qui va se passer, et donc là, vous avez une médaille qui date de 1804, et qui illustre très bien, ici, réalisée par Bertrand Andrieux, un grand graveur, et je vais y revenir, qui représente ici donc deux figures donc féminines, une en train d'écrire l'histoire de la nouvelle monnaie des médailles en 1804. Vous avez ici le type de balancier donc utilisé et que l'on retrouve sur la médaille, là, ici. Et ça, c'est le balancier des médailles qui avait été créé à la demande de Louis XIV, fabriqué par un certain Blondeau, et qui était donc manipulé dans l'atelier donc de la monnaie des médailles Cise au Louvre, dans la galerie que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc cette machine extraordinaire, là il faut considérer qu'on est à la pointe de la technologie et que donc en matière de fabrication de médailles, on n'est pas en mesure de faire mieux. C'est vraiment, je dirais, top niveau sur le plan industriel. Et il faut savoir que la Révolution française va avoir un rôle extrêmement intéressant dans la libération en fait du génie créatif et du génie inventif, et que donc beaucoup d'inventeurs et de mécaniciens vont s'intéresser à la fois à la fabrication monétaire pour améliorer la fabrication de cette monnaie dont on va avoir besoin, et je vais vous en parler dans un instant et vous dire pourquoi, et en même temps ça va permettre à l'art de la médaille également de s'améliorer, toujours dans un but qualitatif. Donc, de faire de l'art monétaire et de l'art médaillistique, donc un art, je dirais, élitiste, top niveau. Et ça va avoir beaucoup d'importance dans les années à venir, dans le développement de l'atelier à ce moment-là. Ici, donc, vous avez cette représentation donc, de Denon. Ici, c'est une vue un petit peu, je dirais, fantasmée, en fait, imaginaire. Il est très affairé, il est au milieu de ses antiques. Il y a ici donc un buste colossal que j'ai eu l'occasion de voir précisément vendredi, hier matin. Donc, dans les réserves du département des sculptures, c'est un objet absolument extraordinaire. C'est un buste en Hermès absolument colossal et qui était donc destiné à être présenté au niveau du pavillon de l'horloge pour, voilà, l'empereur Napoléon Ier règne sur le Louvre, et donc c'est ce Louvre qui est là, le manifeste donc de la, je dirais, la politique artistique donc de l'empereur. Et surtout, vous avez une machine extraordinaire ici qui s'appelle, donc ça c'est un balancier, et c'est un balancier fantastique qui a été créé par un graveur, inventeur, qui s'appelle Jean-Pierre Droz, qui va avoir un rôle très important. Et donc ce n'est pas un hasard si Benjamin Zix a souhaité représenter donc cette machine qui a donc été inventée et qui est vraiment révolutionnaire pour la fabrication monétaire, puisque ça, pour, je dirais, imposer son pouvoir, il a une obligation, Bonaparte, premier consul, c'est de rétablir les finances et l'économie de la France. Et donc ça, c'est absolument nécessaire, parce que la Révolution française a essayé de sauver les meubles. Ça va être extrêmement difficile, c'est la bataille de Lassignat, c'est une inflation absolument galopante, la population n'a pas confiance envers la monnaie papier qui circule. La Convention se trouve dans une impasse, et c'est pour ça que les hommes de la Révolution, et notamment les directeurs, sous le directoire, vont envoyer Bonaparte, notamment en Italie, pour piller l'Italie de ses richesses, s'emparer donc de l'or, de l'argent, faire revenir tout ça en France pour alimenter les ateliers de fabrication monétaire et faire qu'on reparte sur de nouvelles bases économiques, parce qu'il faut absolument redresser la France, redonner confiance, je dirais, dans cette monnaie qui est absolument nécessaire. Et il faut aussi pouvoir, grâce à cette monnaie, faire la paix à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et donc, le domaine monétaire est toujours extrêmement lié. Et ça, Denon le sait parfaitement. Même si ce n'est pas quelque chose, je dirais, où on voit son nom apparaître forcément dans les documents liés à l'administration monétaire, mais on sait qu'il est quand même derrière, et que l'air de rien, il connaît Godin, qui est quand même le ministre des Finances donc de l'Empereur, et qui va mener cette campagne en faveur du redressement de l'économie. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais donc, tout ce matériel technologique va permettre, justement, de pouvoir commencer à changer les choses. Voilà. On ne peut pas rester, si vous voulez, dans cette situation dramatique sur le plan économique. Ce n'est pas possible. Donc, l'art aussi va permettre d'avancer. Lorsque Denon donc, prend son pouvoir, évidemment, il va être confronté, je dirais, à quelque chose d'essentiel, c'est travailler autour de l'effigie du premier consul, puis de Napoléon Ier, car on ne peut pas envisager l'art de la médaille, comme, n'est-ce pas, aussi sous le règne de Louis XIV, sans, justement, transmettre l'effigie de celui qui règne et qui gouverne. Et donc, cette effigie, elle est absolument essentielle. Et il va y avoir, donc, je dirais, une porosité, comme je vous le disais à l'instant, entre l'art monétaire et l'art médaillistique. Et donc, ici, il faut savoir qu'avant la nomination de Denon au poste de directeur de la monnaie des médailles, quand même, le premier consul, donc avec Gaudin, mais aussi donc Joséphine, ils vont faire une visite éclair le 12 mars 1803 à l'atelier monétaire qui est en charge donc de frapper le franc germinal. Et donc cette visite, elle est vraiment, je dirais, stratégique. C'est-à-dire que le premier consul vient visiter les ateliers de fabrication monétaire pour dire, bon ben voilà, ok, les outillages pour la frappe des pièces du franc germinal sont prêtes. Go, je donne ma validation et à partir de maintenant, on va mettre en fabrication ces nouvelles espèces. Et donc, qu'est-ce que l'on voit sur ces monnaies ? Ben forcément, son effigie. Et cette effigie, qui est très différente donc, de ce que l'on va trouver sur les médailles, vous voyez, ça n'a absolument, sur le plan esthétique, rien à voir. Ici, cette effigie a été gravée par le graveur général qui est nommé le lendemain de sa visite en 1803. Et ce graveur, c'est donc Pierre-Joseph Thiollier, qui est en fait, on va dire, un inconnu. Bonaparte ne s'entendait absolument pas avec Augustin Dupré, qui était le graveur général en poste. Il va donc l'éjecter manu militari pour nommer à sa place un inconnu, mais qui a quand même du talent, et qui va donc, sur son monnayage, représenter cette effigie. Le jour de la visite du premier consul, on frappe spécialement pour sa venue et, je dirais, on lui remet en cadeau un exemplaire donc en or sous forme de jeton avec son effigie, vous voyez, qui est vraiment très très proche. Et à partir de ce moment-là, on va voir se décliner pour l'art de la médaille, donc là aussi toute une série d'effigies, mais beaucoup plus, je dirais, classiques, beaucoup plus néoclassiques et beaucoup plus, comment dirais-je, en ronde bosse en quelque sorte. Mais le but de l'effigie, c'est qu'en fait, elle soit facilement reconnaissable. Bon, en plus, c'est en français, en premier consul, donc ça, tout le monde sait lire, enfin, à peu près. Enfin, en tous les cas. Donc, l'effigie, c'est vraiment absolument essentiel. Et de toute façon, on sait que Denon a validé donc, les dessins réalisés pour la frappe de ses médailles. Alors, vous allez avoir quelques variantes, mais au final, il va y avoir sur l'ensemble, je dirais, du Premier Empire, plus d'une quarantaine d'effigies que l'on peut considérer comme étant donc officielles et qui vont se déployer donc sur les 150 médailles de son histoire métallique. Denon et la propagande de Napoléon Ier, donc il ne faut pas, je dirais, négliger le fait que ces effigies officielles, on va les retrouver aussi sur ce que j'appelle des produits dérivés. Il faut savoir que les artistes, les graveurs qui vont travailler sous la direction de Denon n'ont pas, si vous voulez, un contrat de travail qui leur dit « Voilà, vous travaillez dans un atelier et vous n'avez le droit de rien faire d'autre. » Il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Ça veut dire que ces graveurs ont la liberté de pouvoir travailler pour leur propre compte. Et donc, à chaque commande, Denon distribue le travail au graveur, en fonction de ses capacités, je dirais, de rapidité, en fonction, je dirais, ben, s'il y en a un qui travaille sur un projet, ben, il ne peut pas faire deux choses en même temps, donc il faut distribuer le travail, mais en fait, ils ne sont pas, je dirais, coincés dans un atelier où ils ne bougent pas, en général, ils travaillent chez eux, en chambre, et donc, il y a énormément de liberté. Mais à partir du moment où on leur passe commande, Il est clair que Denon veut, à la fin, que la gravure soit réalisée pour que l'on puisse ensuite frapper ces médailles. Ça, c'est absolument indispensable. Et donc, ces graveurs vont utiliser les effigies de l'empereur pour se faire leur propre publicité. Et quelle publicité que de montrer votre savoir-faire, votre expertise en matière de gravure, lorsque, par exemple, ici, vous avez... Vous avez le nom du graveur, on est en 1804, il s'appelle André Gall et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il a réalisé cette matrice pour une médaille officielle, donc commandée par la ville de Paris, pour le repas donné donc en l'honneur donc, du couronnement. Et donc de fait, il va reprendre cette matrice, il va frapper à l'atelier de la monnaie des médailles, parce qu'il a le droit de solliciter l'atelier, donc cet objet, et au revers, en fait, c'est comme sa carte de, comment dirais-je, sa carte de visite. C'est-à-dire qu'il pouvait distribuer ce médaillon à ses clients, disant, ben voilà, ce que je suis capable de faire, je suis un graveur officiel qui travaille donc pour Denon et l'empereur, et donc vous pouvez vous aussi, en tant que particulier, me commander des médailles, et là je vous montre mon savoir-faire. Donc c'est ça l'équipe de Denon. Ce sont des gens qui ont un pied, je dirais, dans le public et un pied dans le privé. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des capacités, ce sont des auto-entrepreneurs, très importants aussi à l'époque. Et je pense que c'est une qualité qui intéressait évidemment Denon, parce qu'ils ont de la réactivité, ce sont des gens qui ont le sens des affaires, ces graveurs. Et donc, de fait, ça lui plaît énormément. Et vous avez, donc, parmi les produits dérivés, ce genre de bois, donc on retrouve exactement le même portrait, et donc la décliner en estampage. Donc ce n'est pas une médaille qui a deux faces, mais c'est uniquement, si vous voulez, un estampage sur une feuille de métal toute fine, appliquée donc sur le couvercle d'une boîte. Et ça, ce sont des objets dérivés qui permettent donc la propagande, toujours de l'effigie de l'empereur, mais pas que sous forme médaillistique. Et donc ça, c'est intéressant. Pour vous dire que donc, la médaille est un vecteur que l'on peut retrouver de différentes manières sur différents types d'objets. Et ça, donc, c'est un aspect, je pense, assez méconnu, je dirais, de l'histoire secondaire ou connexe à l'histoire métallique, en fait. Les effigies, vous allez me dire, mais vous passez beaucoup de temps autour de l'effigie, mais oui, mais justement, c'est cette propagande qui est très importante. Et donc Denon va se mettre en cheville avec un artiste que vous connaissez, évidemment Antoine Denis Chaudet. Et donc Chaudet, c'est un artiste académique, c'est un sculpteur qui va réaliser à la demande de Denon donc une quantité absolument phénoménale de bustes en bronze. Donc, décidément, pardonne-moi, j'ai du mal avec le... Voilà, une quantité phénoménale donc de bustes de différentes grandeurs, donc en bronze patiné ou en bronze patine antique, donc vert antique, distribué partout sur l'ensemble du territoire. Et donc vous avez ici, je dirais, cette iconographie où il est plutôt représenté en Mars, mais dans le style antiquisant. Et donc là, il est tête nue. Et c'est absolument extraordinaire de trouver donc cette médaille que l'on verra, donc qui va se décliner plutôt à la fin du règne de Napoléon Ier, où on le retrouve là, je dirais, comment vous dire ça, un petit peu en Mars, vous voyez, mais c'est le Mars antique, mais voilà, c'est l'empereur romain, si vous voulez, la force. Donc on sait que Napoléon Ier s'intéressait beaucoup à l'Antiquité et que voilà, il attirait beaucoup de choses, je dirais, en termes d'influence iconographique de la part des antiques. Et donc ici, voilà, la médaille va suivre en fait la sculpture, puisqu'en fait c'est un art connexe d'une certaine manière. Et donc ici, vous avez ce buste colossal en marbre réalisé par Canova. Ici, c'est un exemplaire que nous avons en collection, mais qui date plutôt, on va dire, des années 1820, en fait. C'est un petit peu plus tard. Mais sur le plan iconographique, on retrouve vraiment cet intérêt pour l'Antiquité. Ensuite, vous avez toute une quantité d'effigies donc secondaires que l'on va trouver sur des médailles moins connues de l'histoire métallique et en parallèle de l'histoire donc officielle. Et donc, l'art de la médaille se diffuse aussi par le biais des estampes. Donc, vous avez ici donc, cette estampe qui est conservée à l'École des Beaux-Arts, et vous avez là, voilà, toute une série d'effigies réalisées par cet artiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Pierre Droz, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui a un art du portrait absolument extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un des artistes qui a réalisé peut-être les effigies les plus sensibles donc, de Napoléon Ier. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire métallique qui va se figer, le portrait donc impérial va se figer, mais certains artistes vont quand même souhaiter lui garder un petit peu son humanité. Et notamment ici, cette matrice donc, est formidable, elle reprend exactement le dessin qui est ici. Et je vous mets donc un exemplaire frappé qui est là, où là, on voit le menton en galoche de l'empereur. Enfin voilà, il est beaucoup plus peut-être réaliste. Et donc, certains graveurs ont souhaité rester dans cette tonalité, je dirais, plus personnelle, en fait. Donc, les effigies accompagnent l'art de la médaille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est figé. C'est comme pour l'art monétaire. On ne va pas changer, si vous voulez, forcément l'effigie de l'empereur sur ses monnaies. C'est ce qu'on appelle des types immobilisés. Et donc, quelque part, dans l'art de la médaille, eh bien, on se trouve aussi avec cet immobilisme qui fige un petit peu, si vous voulez, dans l'inconscient collectif, en quelque sorte, donc une image stéréotypée donc de l'empereur et de sa personnalité donc, et de sa fonction d'empereur. Et donc la médaille, elle sert à ça aussi. Et évidemment, au revers, vous avez plein d'histoires, mais je vais bientôt y arriver. Alors, évidemment, l'histoire métallique, elle est au service du pouvoir. Et évidemment, j'ai choisi dans cette conférence de vous présenter quelques thématiques, je dirais, qui m'ont semblé les plus importantes, parce que je ne vais pas décliner toutes les batailles, ce serait assez soporifique, en quelque sorte. Donc ici, il ne faut pas oublier que l'art de la médaille, on va toujours commencer par un dessin. Alors vous allez avoir plein d'artistes qui sont proches donc, de l'Académie, plus ou moins proches parfois, et qui vont, je dirais, proposer ainsi à Denon certains dessins donc, qui vont servir de référence, mais malgré tout, il faut quand même savoir que Denon, c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui a envie de faire ce qui lui plaît, et donc il est tout à fait en capacité de pouvoir fournir énormément de modèles. C'est un dessinateur, un graveur absolument donc, émérite, il manie le dessin, la gravure admirablement, et donc de fait, il n'a pas besoin finalement qu'on vienne lui soumettre des dessins comme ça, il est tout à fait en capacité de les produire. Mais enfin, néanmoins, il y a quand même toute une cohorte d'artistes qui vont quand même produire des éléments tout à fait graphiques, intéressants. Et là, vous avez Claude-Louis Doré, notamment, ça c'est un dessin qui est conservé à la collection Rothschild du département des arts graphiques du musée du Louvre. Et voilà, donc il se sert parfois de certaines choses, mais aussi il est tout à fait en mesure de dire « bon non, ben, finalement, c'est pas suffisant, je préfère là que le pavois soit supporté par plus de personnages, ça apporte un petit peu plus de, je dirais, de force à la composition ». Et puis évidemment, le fait de représenter aussi le pape, ça c'est un élément déterminant, et j'y reviendrai sur le plan diplomatique tout à l'heure. Donc la monnaie des médailles va avoir un rôle très important, et on subodore notamment qu'au moment de la création donc de l'ordre de l'insigne de la Légion d'honneur, Denon n'est pas très loin quand même, parce qu'en fait, sur le petit médaillon central, vous avez l'effigie donc de Bonaparte, qui est très très proche de l'effigie monétaire que je vous ai montrée tout à l'heure, et donc on pense qu'il y a vraiment une porosité entre les deux, et en tous les cas, il faut savoir qu'au moment de la création de l'ordre, évidemment, l'art de la médaille va accompagner la création de cette masse de granit qui est absolument énorme et essentielle pour asseoir cet insigne qui a vraiment, je dirais, été un cheval de bataille de Bonaparte. Il a eu beaucoup de mal à pouvoir l'imposer. C'est vrai qu'avec la Révolution qui avait abandonné et supprimé tous les ordres de chevalerie, créer un ordre qui soit équitable, universel et qui parle et qui puisse récompenser le méritant, eh ben, c'était pas si évident en fait. Donc du coup, il va vraiment insister et ainsi, il va y avoir une médaille qui sera créée donc, en 1804 pour accompagner la création donc, de cet ordre ici. Donc voilà, on reprend ici ce motif avec l'aigle, bien évidemment. Ce portrait donc figé qui regarde vraiment droit l'avenir devant lui. Et puis un autre type de médaille, une autre médaille qui commémore donc là la remise donc à la fois aux civils mais aux militaires également. Et donc ça, ce sont vraiment, je dirais, des médailles très significatives dans l'histoire de la construction, donc de la gloire et de la mémoire napoléonienne aussi. Et toujours accompagné, évidemment, par un document d'archives. Les batailles, bien évidemment. Donc je vous ai mis, en fait, comment dirais-je, deux exemples très très différents. Et alors, à côté de l'histoire métallique officielle créée à Paris par Denon, vous allez avoir, évidemment, au moment de la création du royaume d'Italie en 1805, notamment à Milan, là aussi, l'élaboration d'une histoire métallique italienne, donc vue par des artistes italiens, et donc avec des motifs et des modèles italiens, créés par vraiment Appiani, toujours, et d'autres, et de grands graveurs. Mais on voit quand même, si vous voulez, et ça c'est important, que finalement, on ne retrouve pas pour les Italiens, comme c'est le cas ici, la même qualité de frappe et de réalisation que ce que l'on peut trouver à Paris. Donc, Denon, je dirais, impulse à la fois donc, des modèles, il fait travailler une équipe de graveurs qui est mobile, agile, ils sont intelligents, ils ont une connaissance incroyable, ce sont des auto-entrepreneurs, ils sont vraiment dynamiques, et donc, on sent très bien que l'art de la médaille, je dirais que l'école française, l'école de Paris, surclasse toutes les autres écoles italiennes et j'en passe. Et que là, vraiment, on est dans une qualité de fabrication et une volonté de faire de cet art, je dirais, un fer de lance, si vous voulez, de l'ingénierie française et quelque chose de très, très, très qualitatif. Et ça va avoir beaucoup d'importance, notamment donc dans le fait que l'art de la médaille, sur le plan iconographique, va aussi, suivre d'autres applications artistiques, et notamment avec la manufacture de Sèvres, les grandes batailles, les grands moments, les grands temps forts, les traités de paix, etc. Tout ça fait l'objet donc de réalisations de motifs pour rappeler ces événements qui vont se décliner, donc à la fois sur des médaillons de porcelaine, et vous avez ici ce grand médaillon, donc ça fait 45 cm de diamètre, et là, c'est la conquête de la Silésie, donc en médaille, en estampe. Ici, donc, ces grands médaillons, on les retrouvait sur des vases monumentaux qui s'appellent les vases cordeliers, ça fait vraiment 3 mètres de haut, et sur la base, vous aviez donc ces médaillons en porcelaine de Sèvres, peintes style donc camailleux. Il ne faut pas oublier que du temps de Napoléon Ier, on aime énormément donc les pierres gravées, les pierres dures, et ça va revenir énormément donc à la mode, et c'est un retour à l'Antiquité d'une certaine manière, par ce biais-là. Et donc, à la monnaie de Paris à l'époque, il faut savoir que, et grâce à la Révolution, grâce à tous ces hommes qui vont pouvoir travailler sur la science, puisque nous allons avoir un atelier des essais, donc il va travailler à la fois sur l'étude des métaux, leurs propriétés physico-chimiques élémentaires, mais aussi il travaille sur les terres. Il va y avoir un homme très important qui s'appelle Jean d'Arcet, qui est un chimiste et qui va beaucoup travailler sur l'étude des différentes terres, et notamment il va avoir un pied à la monnaie de Paris, mais il va avoir un pied aussi à Sèvres. Et donc c'est la raison pour laquelle je mettais aussi en relation donc cette discipline qu'est la porcelaine extraordinaire, donc en regard de cette iconographie. Et donc l'art de la médaille n'est pas du tout, coupé des autres formes d'art, pas du tout. Donc grâce à l'iconographie, ces images se déploient sur différents types donc de supports artistiques avec différents types de matériaux. Encore un autre exemple magnifique, et là qui imite complètement en fait l'agate rubanée, magnifique, très très beau. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ici, dans les modèles que transmet Denon, il y a à la fois une qualité, néoclassique, à la fois une sobriété. Enfin, c'est extrêmement clair. L'art de la médaille est un art qui est précis, un art qui est concis. Et donc, sur une petite surface, qu'il s'agisse d'une médaille qui fasse 41 mm ou d'un grand médaillon qui fait 40 cm, eh bien, ma foi, la différence d'échelle, si vous voulez, ne trahit rien à la qualité du motif et à la qualité, je dirais, de médiation que sont ces deux supports très, très différents. Alors évidemment, l'histoire métallique est aussi, je dirais, au service des arts. Et là, j'ai choisi de vous montrer deux médailles qui ont été commandées donc, par Denon. Ici, vous connaissez très bien donc, cette image de Benjamin Zix. Et là, on est là avec la salle du Laocoon. Et justement, il va demander à Bertrand Andrieux, qui est un de ses artistes favoris, eh bien, de créer cette médaille qui représente, voilà, qui s'inspire complètement de cette... de ce dessin de Zix, ainsi cette salle, et cette médaille sera complétée d'une autre avec la salle donc ici d'Apollon, où vous avez en 41 mm, voilà, cette histoire qui est liée là vraiment à l'histoire du musée du Louvre et justement au fait que eh bien, les chefs-d'œuvre de l'Antiquité investissent les lieux au fur et à mesure des prises de guerre, et notamment on sait très bien que l'Italie est un endroit dans lequel un pays, enfin, qui n'est pas encore unifié tel qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà, on va pouvoir puiser énormément de richesses, et ça va agrémenter ce Louvre qui est immense et ce Louvre dont il faut garnir les salles, notamment. L'histoire métallique, donc, c'est aussi une histoire, si vous voulez, où, pour parler simplement, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que quand Denon s'empare donc, de cette histoire, il commence à un moment M, mais on s'aperçoit malgré tout qu'il va falloir compléter l'histoire. Et en général, on aime bien revenir un petit peu en arrière, remonter un peu le temps. Louis XIV a fait la même chose. Les différents rois, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans le grand Saint-Empire romain germanique, que ce soit en Russie, on va toujours compléter la série médaillistique par des médailles créées tardivement, mais qui font référence donc, à des thèmes beaucoup plus anciens. Et donc, Denon va demander ainsi à des artistes, notamment à Guérard, ici, pour cette très belle médaille, ici, sur la bataille de Montenotte, ici, de représenter, donc là, vraiment, le Bonaparte général avec ses cheveux longs. Et là, on est vraiment, je dirais, en 1807-1808, à peu près. Donc, on est loin, si vous voulez, de cette effigie. Mais malgré tout, il faut compléter cette histoire. Et évidemment, vous allez avoir... trois médailles, et notamment je vous en ai choisi une ici, donc l'Égypte conquise, où on voit là, vous voyez, un dromadaire, en fait, ici, harnaché, et puis un char, et là on est vraiment dans le style antique revisité, donc là c'est vraiment surchargé, comme savait le faire donc Denon, en fait. Il va puiser un petit peu partout, à la fois dans l'Antiquité, mais il s'est aussi puisé dans l'art de la médaille Louis XIVienne, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et il fait un mixte de tout ça. Mais donc l'idée, c'est quand même de séduire l'empereur. Et alors c'est Denon toujours, je dirais, un administrateur qui est proactif. C'est-à-dire qu'il va toujours essayer de devancer un petit peu l'empereur. Alors parfois ça marche, et puis parfois bah, ça ne plaît pas tellement à l'empereur malgré tout. Qui a quand même son mot à dire, mais voilà. Néanmoins, il veut toujours devancer, faire le bon élève d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est normal. Ces médailles, il faut les vendre, il faut les diffuser. Et donc l'art de la médaille, c'est aussi, et ça va être, je dirais, un élément qui va faire partie de la mission qui est imposée à Denon quand il prend ses fonctions, l'empereur, mais aussi Chaptal, vont lui imposer le fait de rentabiliser l'atelier de la monnaie des médailles. Est-ce que jusqu'à présent, c'est une donnée qui n'existait pas ? Là, on considère quand même qu'un atelier de fabrication de cette qualité, ben, il faut payer les artistes, il faut payer la matière première, l'or, l'argent, le cuivre, tout ça, ça coûte. Et oui, ben alors on va puiser dans quelle cassette ? Et oui, donc il y a un budget, certes, mais malgré tout, il faut rentabiliser. Donc le fait de diffuser l'art de la médaille va devenir un objet qui se collectionne. Ce n'est pas uniquement un objet qui se distribue en cadeau, c'est un objet aussi qui s'apprécie pour lui-même, parce qu'on est bonapartiste, on apprécie l'empereur, on veut acheter ses médailles, et donc de fait, il va être possible de pouvoir les acheter. Et donc en les achetant, ça fait rentrer des recettes, et ça permet ainsi de faire vivre l'atelier. Ça, c'est quelque chose de très très important, alors que c'est une question qui en général n'est pas abordée. Mais la rentabilité... donc financière de l'atelier, est absolument déterminante. La médaille au service du pouvoir et la diplomatie. Alors là, je vais aborder ce chapitre sous un aspect, je dirais, purement technique, liée à la monnaie de Paris. Et donc, il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'une délégation venait en France, lors de la signature d'un traité, etc., donc l'empereur invitait donc les cours, et ainsi, pour montrer, si vous voulez, l'état d'avancement technologique de la France et de Paris, eh bien, il y avait toujours une visite à la fois de l'atelier de la monnaie des médailles et de l'atelier de la monnaie des espèces. Et là, devant la délégation, les ouvriers, les manœuvriers, donc les barriers, faisaient fonctionner les presses, donc les balanciers, on frappait devant les visiteurs, et c'était extrêmement apprécié. Et donc, évidemment, la médaille est frappée sous les yeux. Alors là, c'est la monnaie qui frappe les esprits. Et donc, c'est un moyen, c'est un faire-valoir, si vous voulez. Donc, ce sont des ateliers au service de la diplomatie. Et cette diplomatie, elle est importante, parce qu'en fait, voilà, ça montre la volonté de Napoléon de régner sur l'Europe. Mais donc, il se sert des ateliers, il se sert de deux noms, et donc comme d'un faire-valoir, je dirais, de sa puissance industrielle. Et ça, c'est très important. Et donc, ces délégations, donc ici, bah, vous avez le pape, la visite du pape, le roi et la reine de Westphalie, vous voyez, c'est magnifique, ces petits angelots, ici, pour magnifier, je dirais aussi, le mariage qui accompagne. Et puis, voilà, ici, ses alliés sont ici. Et donc, ces médailles vont être frappées en or, en argent, en bronze, en cuivre, et distribuées. Et là, donc, en cadeau, très, très, très important. Donc, l'atelier, les ateliers sont vraiment au service du pouvoir, comme la médaille l'est aussi, effectivement. Autres exemples ici, donc le roi de Saxe qui va venir plusieurs fois, vous allez avoir le mariage de Napoléon et Marie-Louise. Voilà, ça ce sont des thèmes vraiment très importants, ça va très très bien fonctionner. Ces médailles sont déclinées dans différents modules, différentes dimensions, car l'art de la médaille, c'est un art, comment dirais-je, accessible. Il a un côté très démocratique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de ressources et que vous souhaitez quand même avoir un souvenir donc, du mariage de Napoléon et de Marie-Louise, par exemple, eh bien, vous pouvez acheter un petit module. Ça coûte pas cher. Et vous repartez avec cela dans votre poche. Et voilà, ça, c'est votre souvenir, si vous voulez. On ne peut pas faire la même chose avec un tableau, avec une sculpture. Ça n'a rien à voir. Et donc, l'art de la médaille est démocratique. Très important aussi. Un moment décisif, c'est 1806, le transfert de l'atelier de la monnaie des médailles. Alors évidemment, Denon se voit, pour mission, voilà, d'agrandir, de moderniser le musée, de tout faire pour mettre en œuvre, je dirais, l'arrivée de ces somptueux antiques qui viennent agrémenter de grands espaces, de grandes salles. Donc ici, vous avez cette arrivée au Louvre, hein, toujours notre ami Zix qui est là pour nous rappeler tous ces temps forts un petit peu du musée du Louvre. Et puis, évidemment, il va se poser la question de se dire, bon, ben, l'atelier de la monnaie des médailles, ben, c'est bien, mais il est quand même un petit peu encombrant. On aimerait beaucoup, pour pouvoir installer des antiques qui sont extrêmement pondéreux, eh bien, de récupérer les espaces qui se trouvent en rez-de-chaussée. Alors, dès 1805, il va y avoir des pourparlers, pour que l'atelier déménage et le faire transférer, évidemment, à... je ne suis pas douée, excusez-moi. Pour l'aménager, de l'autre côté de la Seine. Alors, évidemment, les administrateurs en face, Kay Conti, ne sont pas du tout d'accord. Ça ne leur plaît absolument pas de voir arriver donc tous ces balanciers, tous les outillages, parce qu'il y a quasiment 4000 outillages de frappe, c'est très lourd, comment faire? Donc, il va y avoir plus d'une année de tractation avant que, effectivement, l'atelier déménage. Mais bon, au final, l'atelier, on va quand même trouver des espaces, rue Guénégo, et donc ils ne sont pas occupés, en fait, ce sont des dépendances. Et puis on va se dire, bon, ben voilà, ben écoutez, on va vous donner ces dépendances, vous allez installer l'atelier de la monnaie des médailles, mais donc, de fait, ce sont deux ateliers qui sont complètement indépendants. La monnaie des espèces d'un côté avec un directeur, la monnaie des médailles avec deux noms. Alors il va de soi, si vous voulez, que ce déménagement, ben, c'est quand même extrêmement compliqué. Et nous avons fait des grands travaux de réaménagement de notre musée, et croyez-moi que quand il faut déménager un balancier qui fait 7 tonnes, C'est compliqué. Aujourd'hui, on a des grues, etc. Mais donc, à l'époque, ils en avaient aussi. Mais c'est quand même très, très, très costaud. Donc, ça prend quand même des mois. C'est difficile. Il faut continuer à pouvoir fabriquer de la médaille. Il va falloir continuer à produire. Donc, imaginez un petit peu la complexité. Donc, Denon, je pense que ça lui pose quand même des soucis d'organisation. Et donc, pendant ce temps-là, ces graveurs continuent à réaliser les matrices. Et donc, de fait, bon, ben voilà, il faut que ça se mette en place. Mais c'est un moment décisif. Alors, Denon, évidemment, c'est un directeur qui est obligé d'être à l'écoute de son maître. C'est-à-dire que parfois, Napoléon a des idées bien précises. Et pour cette médaille, pour la bataille d'Austerlitz, Napoléon dit, ben voilà, j'aimerais bien, évidemment, représenter, là, voilà, Alexandre et puis François II. Alors évidemment, Denon s'exécute, il apporte les médailles, les épreuves. Oh, et alors là, l'empereur fait la grimace, ça ne lui plaît pas du tout. Et donc, de fait, on détricote tout ça. Bon, monsieur Denon, il va falloir me trouver un autre type. Alors là, Denon, ni une ni deux, va dessiner ici donc ce revers magnifique, avec ce foudre de guerre, avec ces ailes éployées qui sont ici, pour marquer la fulgurance, je dirais, de cette bataille décisive, donc est la bataille d'Austerlitz. Et donc, vous voyez qu'en fait, parfois, eh bien, si l'empereur, je dirais, est proactif et propose, eh ben, il y a des moments, il se rétracte parce que ça ne fonctionne pas. Sur le plan, je dirais, symbolique, c'est fort, mais le motif, le modèle n'est pas assez fort. Donc, Denon, à partir de ce moment-là, ben, il se met à la tâche et il y va. Denon, comme vous le savez, ben, il est omniprésent partout. Et donc, forcément, son nom va apparaître, bien entendu, sur, voilà, à côté de la signature donc des artistes. Donc, Andrieux Fekit, Denon Dirixit. Et là, sous différentes formes. Et là, les graveurs, ben, évidemment, ils n'ont pas le choix. Hein. Le directeur, c'est la première fois dans l'histoire métallique française, parce que même sous Louis XIV, Nicolas Delaunay n'a pas pris, je dirais, la main pour marquer Dirixit. Il n'y a que Denon qui fait ça, et pour cause, puisqu'il participe activement. C'est lui qui crée aussi des motifs. C'est lui qui propose des légendes. Donc ça, c'est très important. Donc, voilà, il est partout. Les graveurs, alors qu'est-ce que c'est que la technique ? Donc, c'est un art exigeant. Et si je vous ai fait, voilà, je vous ai extrait donc quelques planches de l'encyclopédie pour vous montrer qu'en fait, eh bien, les artistes travaillent en chambre, hein, c'est-à-dire dans leur petit atelier, toujours avec une lumière rasante. Et donc, ils utilisent, vous voyez, ça, c'est un bloc d'acier doux que vous avez ici. Vous avez le boulet qui va permettre d'orienter donc le bloc sur un boudin de cuir et l'orienter en fonction de la luminosité de la journée. Vous avez ici donc ces matrices. Ici, ça, c'est l'exemple, voilà, d'un portrait de Louis XV. Les différents types d'outils, les échoppes qui sont ici, les burins qui sont ici, le marteau, le compas et ici, donc, des petits poinçons de lettres. Et donc, voilà un petit peu ce avec quoi travaillent les artistes. Ça paraît rudimentaire, mais en fait, vous allez voir, je dirais, la qualité de gravure que l'on peut réaliser avec ces outils. Denon, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc fait appel à des artistes, j'appelle ça son écurie donc de graveurs. Et ici, vous avez l'artiste, je dirais, le plus important, qui est donc Bertrand Andrieux. Il est ici représenté sur ce tableau par un peintre qui s'appelle Maximilien de La Fontaine, et ce tableau a été présenté au Salon donc Carré du Louvre en 1798. Et Denon donc fait appel à Andrieux à la fois pour les effigies, mais aussi pour certains revers. Et ici, je vous montre cet exemple qui est, je dirais, d'un style absolument gracieux, déjà pré-romantique. C'est absolument exceptionnel. Et savoir graver dans l'acier quelque chose d'aussi fin et d'aussi, je dirais, subtil, c'est extrêmement difficile. Et ces objets sont des œuvres d'art, sont des chefs-d'œuvre à part entière. Vous avez ici, donc, on voit la signature donc, d'Andrieux en cursive, très reconnaissable. Et donc, vous avez ce portrait, là aussi, dans l'acier doux, fantastique. Et donc, vous voyez le détail, voilà, la capacité des graveurs à réaliser donc ces détails au niveau là ici de la couronne, là ici du costume, c'est absolument phénoménal. Et là on est sur une surface d'à peine 4 cm. André Gall, qui est un personnage incroyable, qui est représenté ici sur ce tableau un peu plus tardif, 1822, mais qui a aussi un art de la gravure extrêmement consommé, et donc avec une maîtrise absolument incroyable, et qui avait la capacité de travailler avec une rapidité phénoménale. Et donc ici, vous voyez, il est représenté vraiment le regard vers le ciel, et donc très fier de sa position de graveur. Il faut savoir qu'à l'époque, les graveurs sont extrêmement bien payés, comparativement aux peintres, aux sculpteurs, eh bien, ils gagnent très très bien leur vie. Et donc ça, voilà, pour un seul poisson, ils peuvent être payés 4 000, 5 000, 6 000 francs hors de l'époque. C'est considérable, très 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 important. Et c'est, voilà, c'est l'élite. Voilà, on est vraiment en face de l'élite des graveurs de l'école française, gravure en médaille, c'est absolument exceptionnel. Et donc, ces personnages, alors ces outillages pèsent plusieurs kilos, c'est en acier, c'est fantastique, et ce sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Et j'en ai là, je dirais, la charge au musée de la Monnaie, et c'est vraiment pour moi un plaisir renouvelé que de travailler sur cette collection extraordinaire. Et là, vous avez donc, vous voyez, tous ces détails, la peau du lion ici, c'est extrêmement vivant. Et donc, on est vraiment, je dirais, à la fois dans un art néoclassique, mais déjà pré-romantique par le mouvement. Et ça, c'est quelque chose vraiment de, je dirais, d'inédit dans l'art de la médaille. Et les auteurs anciens, hein, les conservateurs au cabinet des médailles au début du XXe siècle n'ont pas très bien compris l'art de Denon, en fait. Et ont souvent considéré et écrit, malheureusement, qu'en fait, l'histoire métallique de Napoléon Ier était très, très, très inférieure à celle de Louis XIV. Mais ça n'a absolument rien à voir. On ne peut pas du tout comparer, puisque l'Académie des inscriptions et belles-lettres sous Louis XIV va mettre des décennies à réaliser l'ensemble de l'histoire métallique du souverain, alors qu'avec Denon, ça se fait pendant le temps de règne de l'empereur. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est à marche forcée, toujours. Donc réaliser autant de médailles en si peu de temps, c'est vraiment absolument exceptionnel. Et très très peu finalement de souverains ont pu obtenir cela, parce que c'est pas évident du tout. En Russie ou ailleurs, c'est quand même beaucoup plus long comme processus. Donc ça, c'est grâce à Denon quand même. Ici, un autre graveur extraordinaire, et là on voit toute l'influence du peintre William Blake, c'est extraordinaire, ce géant, ici. Vous voyez, donc ça c'est Nicolas Brenet, c'est lui qui va faire des réductions de la colonne Vendôme, extraordinaire. Et donc vous avez ici l'école des mines. Ah, pardonnez-moi, décidément. Voilà, on voit les petits mineurs qui sont ici. Voilà, et ce géant absolument incroyable, avec ses doigts, comme ça, voilà, assis, replié. Cette médaille, 41 mm, elle fait partie des plus originales de l'histoire métallique. Et le poinçon est fantastique. On rentre dans un imaginaire, je dirais, insoupçonnable, voire insoupçonné, en fait. Et on a envie de dire vraiment chapeau bas, monsieur Denon, et chapeau bas, messieurs les graveurs, parce que ça, c'est vraiment absolument incroyable. Un autre exemple, ici, pour le Simplon. Fantastique, où on voit les petits personnages qui montent le long de la paroi rocheuse. Et alors, ce géant absolument incroyable. Voilà. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, ça c'est fantastique. Et alors là, il casse complètement les codes de l'art de la médaille. Là, on est dans une modernité absolue. Ce sont, je dirais, peut-être mes deux médailles préférées, très certainement. Donc je vous fais partager, mes préférences, en fait. Nicolas Brenet, toujours. Donc, vous voyez, voilà, vous avez regardé dans le travail des drapés. Alors là, on est vraiment... Là, c'est l'antiquité retrouvée, extraordinaire. En plus, cette capacité à faire des granités au niveau du fond, que l'on ne retrouve absolument pas sur la médaille, mais qui accroche énormément la lumière, et avec une précision donc dans les effigies. Vous voyez, ici, c'est quand même très reconnaissable. Les mains, enfin, c'est savoir graver en petit, Et quand on déploie, vous voyez, en grande dimension, eh bien, je veux dire, ça ne perd absolument pas de sa qualité. Donc là, c'est quand même absolument phénoménal aussi. Et puis l'expressivité, évidemment, de l'aigle, bien sûr. Autre artiste majeur, donc, c'est Louis Jallet, qui va là s'inspirer vraiment de l'Antiquité. Il y a un côté très, très archétypal et archaïsant ici, dans cette médaille pour la capitulation d'Ulm et de Meiningen, 1805. Fantastique. Et là, voyez, ici, poinçon original, 1805. Alors ça, c'est unique. Absolument unique. Et très, très reconnaissable aussi, parce que le graveur installe, je dirais, grave ses légendes, toujours de cette façon-là. Ce que ne font pas ses autres camarades d'atelier, en fait. Donc chaque graveur a sa particularité technique. On peut retrouver, donc, je dirais, une facture, un style qui lui est très reconnaissable, sans avoir forcément, si vous voulez, de signature. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et Denon laisse aussi cette individualité exister. Le même artiste, qui là, vous voyez, sur le motif, va graver d'après nature, donc ce portrait de Murat, absolument incroyable. Donc là, dans un module un petit peu plus grand, là on est quand même en 76 mm, avec beaucoup de relief. Et c'est le genre de médaille qui demande quand même plusieurs jours, rien que pour la frappe, puisqu'entre chaque passe de frappe, il y a une phase de recuit du métal. Donc, et on frappe toujours à froid, donc c'est une technique vraiment très compliquée, qui demande beaucoup de soins, beaucoup de travail. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un art qui ne coûte pas cher, qui est démocratique, mais qui est assez long, je dirais, dans le processus de fabrication. Mais là, c'est vraiment remarquable. Donc, comme quoi, ils sont vraiment, je dirais, en capacité de réaliser vraiment des œuvres étonnantes. Et vous allez avoir, donc, en 1806, la création de la commission des inscriptions et médailles, qui est en fait l'héritière de l'Académie des inscriptions. Donc, et belles lettres, c'est-à-dire cette académie qui a pour travail la réalisation de dessins et de légendes. Mais le souci, si vous voulez, c'est que cette commission travaille lentement. Et donc, en plusieurs années, ils vont rassembler à peu près 150 dessins, réalisés en 3 volumes, mais finalement, très peu de ces médailles vont être réalisées, parce que le process est beaucoup, beaucoup trop long. Et donc, cette commission existe, mais en parallèle, évidemment, Denon, lui, ne peut pas attendre. Donc, les commandes continuent à affluer, et les demandes de l'empereur, la politique, les batailles, les traités, n'attendent pas la création de ces médailles. Et donc, vous allez avoir en parallèle, je dirais, deux réalisations. Et donc, ce qui fait que vous avez des projets qui ne se réalisent jamais, comme celui-ci, notamment. Vous voyez, projet de dessin réalisé, proposé par Visconti, pour illustrer, ici, en fait, la paix de Presbourg, mais c'est beaucoup, beaucoup trop lent. Et donc, de fait, Denon décide de s'inspirer d'une médaille héritée de Louis XIV, qu'il va réaménager, et ensuite, pour le traité, quelques années plus tard, là, il s'inspire à la fois de l'antique, mais en même temps du style Louis XIVien, et donc c'est quelque chose là de beaucoup plus fouillé, voire un petit peu aussi, et donc il fait un petit peu un mixte de tous les genres en quelque sorte, et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne sa marque et sa patte. L'Académie, donc voilà, parfois on a quand même le temps de frapper certains sujets qui sont, je dirais, moins en phase avec une politique de course à l'événement, en quelque sorte. Donc là, ici, avec la substitution des prix décennaux, on avait un petit peu plus le temps, de prendre son temps, tout simplement. Et donc, cette médaille va quand même voir le jour à partir de ce dessin. Il y a un des grands dessinateurs qui va intervenir dans cette histoire de la commission des inscriptions et médailles. Eh bien, c'est Frédéric Lemot, qui aura une carrière absolument incroyable avec la Restauration et Louis XVIII, notamment. Un autre projet ici, donc le monument du Mont-Cenis, et là on arrive donc à la fin de l'Empire, mais néanmoins cette académie a quand même, je dirais, une belle carrière, puisqu'en fait l'idée c'est de continuer à promouvoir, je dirais, une réflexion d'esprit, une réflexion autour de la légende, et une caractéristique vraiment particulière des médailles de Napoléon Ier, elles sont en français. Il ne veut pas de latin sur ses médailles, donc il veut impérativement du français. Et alors que la commission a très envie de voir du latin, bien évidemment. Et un des grands personnages de la commission, c'est quand même Quatremer de Quincy, qui est ce grand théoricien de l'art, qui va donc théoriser et vouloir faire donc de l'art antique, mais extrêmement, comment dirais-je, épuré, ascétique, etc. Et ça ne plaît pas tellement à Denon, qui veut quelque chose d'un peu plus vivant. Et je pense qu'il avait très certainement raison. Et les exemplaires, tout à l'heure, montrent bien que lâcher la créativité, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et évidemment, il va y avoir, je dirais, la création du prix de Rome, et les graveurs en médaille vont avoir le beau rôle. Notamment, je vous donne ici le premier lauréat dans la section de gravure en pierre fine, qui est donc le fils du graveur général, et qui s'appelle donc Nicolas-Pierre Thiollier, et qui prendra la suite de son père en 1816, quand ce dernier va démissionner. Mais disons que ce sont pour nous de grandes signatures et de grands artistes pour la monnaie des médailles. Et donc voilà, ils nous accompagnent au quotidien, tous ces artistes. Et donc ici, je vous montre une cire réalisée à partir de l'empreinte donc du cachet qu'il a gravé pour réussir ce prix et partir à la villa pendant 3 ans. Et donc ici, ça représente un cachet qui est présenté, donc le génie de la gravure qui présente un cachet à l'empereur. Et vous avez donc ici Thiollier qui est peint par un de ses camarades lorsqu'il est donc à la Villa Médicis. Et donc l'art de la gravure va devenir un art vraiment académique, mais qui va ensuite être enseigné, donc plus tard, à l'école des beaux-arts. Et donc ici, l'artiste est représenté avec, vous voyez, son tour à graver. Il a une médaille ici. Mais voilà, c'est ce qui fait sa marque de fabrique, en quelque sorte. Et donc les graveurs en médaille vont séjourner à la villa. Et le dernier graveur général qui a été à la Villa Médicis à la Monnaie de Paris, donc a été Émile Rousseau notamment, et qui est parti à la retraite dans les années 80. Donc, vous voyez, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Voilà ici les travaux réalisés par l'artiste lorsqu'il est à la villa. Et donc, vous voyez, il grave ainsi cette matrice, ce poinçon, ici notamment, et avec cette médaille dans un style très graphique, très, très bonnetteur, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons pu voir de ses confrères qui faisaient des choses beaucoup plus en modelé, en quelque sorte. Mais c'est très typique de son travail. Et en tant que futur graveur général des monnaies, il est obligé de travailler dans un style beaucoup plus plat, beaucoup plus graphique en quelque sorte. Et malheureusement, nous arrivons à la fin d'une grande histoire, où avec la campagne de Russie, voilà, c'est presque la fin, où on va encore voir quelques médailles qui seront réalisées. Et ici, vous en avez toujours la trace par le biais donc, de ces archives. Et ici, donc, cette bataille de la Moscova. Et on sait qu'ensuite, si vous voulez, ça va être la dégringolade d'une certaine manière. Mais malgré tout, que va-t-il se passer? Denon, évidemment, en tant qu'administrateur, va pouvoir, je dirais, exercer aussi toutes ses volontés. Et évidemment, son intérêt pour l'art de la médaille va faire qu'il va acheter un tableau en 1812, donc d'un peintre. Et ce tableau donc représente Jean Varin, le célèbre graveur donc de l'histoire métallique donc de Louis XIV dans les années 1660. Et ici, Louis XIV enfant. Ce tableau est peint donc en 1654 par François Lemaire. Et ce très beau tableau qui est donc dans notre musée, en regard du joli portrait de Denon prêté par le musée Denon, eh bien, illustre le fait que Denon n'a pas oublié de doter la monnaie des médailles donc d'autres chefs-d'œuvre et donc de peinture. Et ici, c'en est vraiment un très bel exemple. Que vont devenir les archives métalliques? Tout à l'heure, je vous parlais de Jean-Pierre Droz. Donc, Jean-Pierre Droz est un artiste absolument incroyable. C'est inventeur de balanciers. Ce monsieur est tellement génial qu'en fait, il va, je dirais, être maltraité par ses camarades et par notamment les ingénieurs de la Monnaie de Paris qui vont lui faire des tas de misères. Et donc il va devoir s'exiler en Angleterre et il va revenir uniquement en 1804. Mais le fait d'avoir travaillé pour Matthew Boulton, qui est donc un grand industriel britannique installé donc à Birmingham, eh bien va faire qu'en fait ça va lui donner des tas d'idées sur le plan technique et industriel. Il va revenir en France et là, Bonaparte va se dire, voilà, il faut absolument, je dirais, faire que il ne soit plus, enfin qu'il n'ait plus envie de partir à l'étranger, parce qu'il faut absolument utiliser son savoir-faire, son génie, etc. Et donc il va le nommer premier conservateur du musée des coins. Et donc toutes les matrices, tous les poinçons gravés par ses collègues, c'est lui qui va les conserver, c'est lui qui va en faire l'inventaire. Et donc à la chute de l'Empire, eh bien de fait, c'est lui qui va dresser donc un inventaire et qui va, je dirais, servir à la restauration sous Louis XVIII pour l'impression du premier catalogue des outillages monétaires de la monnaie des médailles. Et donc il a fait un travail absolument considérable. Et donc je vous le représente ici, donc là gravé par Eugène Dumois, un graveur d'une autre génération, qui va donc avoir beaucoup de succès au milieu du XIXe siècle, et donc qui lui rend hommage ici. Et Droz a réalisé un des plus beaux portraits donc, de Bonaparte. C'est un chef-d'œuvre absolu que j'ai présenté dans l'exposition Napoléon sur, sur les pas de Napoléon à la Monnaie de Paris, et qui fait partie vraiment de ces portraits les plus expressifs et peut-être les plus réalistes aussi, et qui est très 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 éloigné des portraits figés que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc ce portrait n'a pas été malheureusement énormément diffusé, mais il était destiné donc à la médaille en relation avec la paix de Lunéville en 1801, et c'est vraiment un chef-d'œuvre de gravure. Et ce n'est pas étonnant finalement que ses camarades lui aient fait autant de misère, parce qu'il était tellement doué que ça les agaçait beaucoup. Donc on est capable de tout dans ces cas-là. Et il en a fait les frais. Et enfin, un dernier hommage discret et monumental. Donc monumental par la taille donc des colosses de même nom, et discret par le fait que, quand Dominique Vivant de Nons s'éteint en 1825, évidemment, un de ses graveurs va vouloir lui rendre un dernier hommage, et donc c'est André Gall. Et donc, sur une médaillette qui ne fait que 19 mm de diamètre, eh bien, nous retrouvons ce portrait pétillant de cet homme extraordinaire qui a su animer donc cet atelier de fabrication assez méconnu, mais qui a eu un rôle de propagande, un rôle de communication, et qui a permis donc au savoir-faire français et à l'équipe française de gravure en médaille, eh bien, de pouvoir, je dirais, générer d'autres générations de graveurs à la suite, pour continuer à faire de cette maison qui est la mienne et que je représente parmi vous aujourd'hui comme un des fleurons donc de l'histoire et de l'art de la gravure aujourd'hui, l'art médaillistique. Donc merci Monsieur Denon, parce que sans vous, on ne serait pas là. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. J'ai dépassé l'horaire, je suis désolée.
Bien, merci beaucoup, c'était très documenté, très intéressant. Une fois encore, merci d'être venu, mais surtout merci d'avoir dialogué avec nous, puisqu'on a trouvé beaucoup de sujets d'intérêt commun. Je rappelle, je l'ai dit en particulier, mais je le dis d'une façon un peu plus publique, que ce que nous essayons de faire, c'est de retrouver ce que j'appelle l'écosystème des gens qui sont intéressés par l'œuvre et la vie de Vivant de Nons. Ceux qui ont participé au cycle des colloques, eh bien, ils ont 20 ans de plus, ou pas de 20 ans de plus, c'est-à-dire ils ont disparu de la circulation. Oui, il est encore vivant. si vous voulez, il faut des gens qui s'intéressent au sujet et une nouvelle génération qui émerge. Pour pouvoir le faire, ici, évidemment, à Châlons, vous savez bien que c'est le centre du monde, mais enfin, c'est quand même un petit peu excentré. Si on n'a pas des relais, en particulier à Paris, qui nous permettent d'avoir des contacts avec telle ou telle institution, ou tel ou tel universitaire, ou tel chercheur, eh bien, on est un petit peu embuté dans nos recherches. Donc, aussi à travers ces manifestations, ça nous permet d'avoir des dialogues avec des personnalités qui viennent de Paris, et après qui nous donnent les bons carnets d'adresses, le bon mail, le bon qui va bien, et après on se disperse dans toute cette communauté pour pouvoir, si vous voulez, avancer dans nos travaux. Nous, on ne fait pas de travaux originaux parce qu'on n'a ni les moyens, ni les sources, ni les bases, mais on peut relayer finalement. C'est ça qu'on a essayé de faire dans les colloques, relayer des travaux qui ont été faits par d'autres, mais les assembler dans le fameux site, je fais encore de la pub, donc lisez bien la quatrième de couverture de la plaquette là, qui explique tout ce mécanisme là, et tout apport extérieur est intéressant. Il y a quand même quelques personnes dans la salle en dehors de moi qui ont contribué, je pense à Jean-Paul, qui ont contribué à faire tel ou tel chapitre ou telle page en prenant des sources dans des ouvrages divers et variés, et puis de pouvoir les synthétiser. Donc, d'une façon, ce site, c'est le portail d'entrée sur le bonhomme et son œuvre. Et il y a encore des trous dans la raquette, et donc on essaye de les compléter, mais ça, il faut l'aide d'autres personnes pour pouvoir le faire. Donc, merci, madame, de pouvoir y contribuer. Voilà. Oui, non, mais donc avec le catalogue d'exposition, si vous voulez, ça nous donne des points d'entrée, et puis à ce moment-là, on aura un dialogue, si vous voulez, pour aller plus avant sur tel ou tel, en particulier toute la galerie des graveurs que vous avez citée. Pour le moment, la page, elle est blanche, elle est jaune, en fait, sur le site internet, donc il y a des choses à faire. Quoi. Voilà. Oui, madame... venez là, vous pouvez venir là qu'on vous entend bien.
La conférence de cet après-midi, puisque nous aurons le plaisir de recevoir en prêt à l'automne prochain, dans la salle donc consacrée à Vivant Denon, les matrices et les médailles frappées, les médailles commémoratives sur l'Égypte, puisque cette année, vous savez que c'est l'anniversaire de Champollion et que nous participons aux manifestations nationales. Donc voilà. Un bon prolongement grâce à l'hôtel de la Monnaie. Donc, les matrices et les médailles de Vivant Denon seront présentées à Chalon-sur-Saône dans la salle Denon.
Bien, merci beaucoup. Et on remercie encore Madame Coularet pour son exposé et d'être venue à Chalon. Voilà.